Bonjour, chers amis. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 12, Jésus affirme quelle est sa vocation. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Une telle parole suscite une réaction assez forte de ses adversaires. C'est ainsi que les pharisiens vont immédiatement lui rétorquer: Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Aujourd'hui, on dirait: Ton témoignage n'est pas recevable. Cependant, Jésus a déjà abordé ce sujet de la recevabilité de son témoignage. En Jean 5, au verset 31 et suivant, il présente les différents témoins qui viennent attester ce qu'il est. Il cite Jean-Baptiste au verset 32 à 35. Puis, il n'hésitera pas à dire qu'il possède un témoignage plus grand que celui de Jean. Les œuvres que mon Père m'a donné d'accomplir, dit-il, rendent témoignage de moi. Puis, par la suite, au verset 37, c'est le Père lui-même qui est invoqué comme rendant témoignage à Jésus. Et au verset 39, il termine en parlant des Écritures, qui elles aussi rendent témoignage de moi. Et au verset 40, il montre où cela a mené. Malgré cela, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Apparemment, dans ce chapitre 8 de Jean au verset 30, nous assistons à un changement de décor. Pour qui connaît le texte, nous sommes introduits dans une scène vraiment surréaliste. Tout semble bien commencer. Comme Jésus parlait, plusieurs crurent en lui. Il y a là comme un frémissement, dirait-on aujourd'hui, comme des signes précurseurs d'une amorce de changement, comme les premières manifestations d'une vie naissante. Plusieurs crurent en lui. Une telle parole fait espérer, ou du moins laisse croire, qu'il va y avoir une suite favorable. Il y aurait là de quoi, ou il y a là de quoi, enthousiasmer les disciples. Ne l'aurions-nous pas été nous-mêmes? Ne le serions-nous pas aujourd'hui si un mouvement se faisait qui nous amène à constater qu'un grand nombre de personnes vient vers l'Évangile, s'intéresse à l'Évangile? Regardez. Regardez la joie, les sentiments qui nous animent lorsque nous constatons l'intérêt d'une personne, d'une seule, pour l'Évangile. N'est-il pas normal qu'éventuellement les Juifs se soient ou les disciples se soient réjouis de cela? Revenons à nous. À défaut de devoir nous mettre à plusieurs pour sortir de l'eau, un filet prêt à se rompre tant il regorge de poissons, nous ne tardons pas à nous rabattre sur un texte à minima. Et tout de suite, citons, il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Il en va de même lorsque, faisant bon cœur contre mauvaise fortune, nous masquons notre désappointement en citant deux autres textes à minima. Souvenez-vous de nos réactions lorsque, pour une réunion de prière, nous sommes beaucoup moins nombreux que nous ne l'avions espéré, et tout de suite nous viennent à l'esprit les paroles « Si deux sur la terre s'unissent pour demander quelque chose, deux à minima. » Ou encore, lorsque pour toute autre réunion, l'auditoire est beaucoup plus réduit, encore une fois, que souhaité, nous avons une autre parole qui nous permet d'échapper au stress. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, encore une fois, une parole à minima. Certes, ces promesses concernant la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent, concernant la certitude de l'accueil auprès de Dieu pour deux qui sont en harmonie dans la prière, concernant encore la présence du Seigneur là où deux ou trois sont réunis. Si ce sont là des promesses précieuses, capables de nous encourager, elles ne doivent constituer en aucun cas un oreiller de paresse. Elles ne doivent marquer, exprimer aucun satisfecit pour alimenter un quelconque contentement, car le pécheur qui se repent, les deux en harmonie pour prier, les deux ou trois rassemblés en nom du Seigneur sont appelés à se multiplier, à devenir des dizaines, des centaines, voire même des milliers. Pardonnez cette longue digression. Revenons à Jean 8 et à la perspicacité de Jésus, qui a de la pénétration, qui comprend et juge avec clairvoyance ceux qui sont en face de lui. En fait, il ne peut guère être surpris. Voici comment Jean rapporte un autre événement. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jean 2, 23 à 25. Parce que Jésus sait ce qui est dans l'homme, il ne peut être surpris par cet intérêt manifesté par plusieurs qui crurent en lui. Il va, en face de ces hommes, prononcer une parole déterminante. C'est bien à eux qu'il s'adresse, puisque Jean précise, et c'est intéressant de le relever, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent à lui. Et d'ajouter, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. C'est bien à eux qu'il s'adresse et prononce des paroles qui s'inscrivent admirablement dans le contexte. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. À y regarder de plus près, la première partie de ces paroles serait suffisante. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Constatons tout d'abord, en y regardant d'un peu plus près, que ces paroles sont introduites par un tout petit mot, le mot « si ». Ce mot est une conjonction. Dans la formulation présente, cette conjonction introduit une phrase subordonnée qui indique une hypothèse, qui indique la condition d'un acte ou d'un état. Nous l'avons vu dans Jean 2, Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Par ailleurs, dans Jean 7, lui-même exhortera la foule à ne pas juger selon l'apparence. Il rejoint en cela cette parole de l'Ancien Testament dans le livre de Samuel, où Dieu charge le juge d'Israël d'aller chez Isaïe le Bethléemite pour oindre un de ses fils roi d'Israël. Certainement est-il frappé par l'aspect, la prestance d'Éliab, le premier-né d'Isaïe. Ne se dit-il pas, c'est certainement lui, loin de l'Éternel? Mais le texte nous le rappelle dans 1 Samuel 16, 6, que Samuel est immédiatement instruit de la passée du Seigneur et, si j'ose dire, en quelque sorte rappelé à l'ordre. Voici ce que dit ce texte. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté, c'est-à-dire je ne l'ai pas choisi. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et c'est parce que Jésus regarde au cœur de ses auditeurs qu'il parle comme il le fait. Si vous demeurez dans ma parole, c'est l'hypothèse. Il suppose qu'ils vont le faire. C'est la condition qui va introduire ou confirmer ces personnes dans leur nouvel état, dans leur recherche nouvelle. Cette condition est celle à laquelle satisfait tout vrai disciple parce que justement il devient réellement un disciple. Jésus aurait donc pu se limiter à cette première partie de sa formulation. Si vous demeurez, pardon, dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Cependant, il connaît ces phénomènes, si j'ose dire. Pardon pour l'expression peut-être un peu plus familière. Il connaît ses loulous. En Jean 9, lorsque l'évangéliste nous relate le face-à-face entre l'aveugle né que Jésus a guéri et les Juifs, ceux-ci se réclament comme étant disciples de Moïse. Quand on constate ce qu'ils ont fait de la parole de Moïse, on peut facilement se douter de ce que seraient devenues les paroles de Jésus triturées par leur système. Et c'est parce que Jésus connaît justement leur façon de faire, leur façon d'agir, leur immobilisme, qu'il leur dit cette phrase complémentaire, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Croire réellement en Jésus pour devenir réellement son disciple, c'est entrer dans un mouvement de découverte, c'est entrer dans un mouvement de libération. La foi en Jésus-Christ, loin de conserver les choses acquises dans le passé et les conforter, va entraîner le disciple dans une véritable dynamique. Ce mot vient du grec dynamikos. Selon le dictionnaire, il signifie puissance, signifie qui fait preuve d'efficacité, d'entrain, de goût pour l'entreprise. La semaine dernière, je vous disais que l'évangile ne s'adresse pas à des lavettes, mais à des battants. Il s'adresse à des personnes animées d'une volonté farouche de servir le Seigneur, de le suivre. La foi en Jésus-Christ est dynamique. La foi en Jésus-Christ et en sa parole est propulsive. Ce mot se dit d'une poudre apte à lancer un projectile. La foi de Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ est une foi en mouvement. Plus tard, le texte biblique montre que Dieu n'est pas en retard sur la technologie, puisque le Saint-Esprit va venir. Lui, cette puissance, nous dit l'Écriture, qui va booster, si j'ose dire, la foi, selon la promesse que Dieu a faite. Et les disciples poussés par cette puissance qui vient d'en haut seront les témoins de Jésus-Christ à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ainsi que, en quelques semaines ou quelques mois, la poignée des disciples de Jésus-Christ réunis dans la chambre haute va devenir 3 000, 5 000 et plus encore de disciples et même essaimés jusqu'à atteindre les limites de l'Empire romain en quelques décennies, à la fin du 1er siècle. C'était chose faite. Reportez-vous au livre des Actes et vous serez émerveillés. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Et en disant cela, Jésus fait mouche. Que signifie cette expression pour moi? Eh bien, je vais m'en expliquer. En un instant, le temps de dire ces paroles, et il s'en est fait du croire en lui de la foule. Quelques paroles seulement, et tout vole en éclats. Cette foi qui apparaît comme opportuniste, comme ayant un caractère politique, comme étant une foi en un Messie sur mesure. Dans la situation d'occupation d'Israël par le peuple, par la puissance romaine, cette foi-là ne résistera pas. Car, nous le constatons par la suite du texte, à la prometteuse parole de Jésus, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ces nouveaux croyants, que je mettrai entre guillemets, opposent leur filiation abrahamique en même temps qu'ils font preuve de leur amnésie et de leur cécité. Il serait possible de montrer comme Israël a connu de multiples esclavages, ce dont ils se défendent ici, quant à leur condition spirituelle d'aveuglement. Elle est mise en valeur ou en relief par le discours de Jésus. Parcourez la suite du texte, parcourons-le ensemble et nous verrons. Concernant la filiation qu'ils disent être d'Abraham, Jésus leur dit, vous avez pour père le diable. Concernant leur esclavage, il n'hésite pas à leur dire que c'est celui du péché auquel ils se sont livrés. Quant à leur tendance, eh bien, elle ne tend qu'à accomplir les œuvres de leur père. Ce père dont le verset 44 précise qu'il est le menteur et le père du mensonge. Et au verset 44 encore, il précise bien que ce père est meurtrier depuis le commencement. Et allez voir, à constater quelle est leur attitude, quelle est leur démarche, nul n'est besoin de procéder à des tests de paternité. Plusieurs crurent en lui. Irréaliste, lorsque nous lisons « Vous cherchez à me faire mourir » au verset 37, puis au verset 59, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Voilà comment se présente cette foi de plusieurs qui crurent en lui. Énigme que cette foi. De cette foi aux intentions meurtrières, mais non point. Ces intentions se révèlent parce que ces hommes sont déçus dans leur attente. Ils avaient certaines idées, se faisaient certaines idées. Jésus n'y répondait pas. Le plus simple, le meilleur, était de s'en séparer, car pour eux, il devenait un faiseur, un causeur de troubles. Mais comment se fait-il qu'il en soit ainsi? Jésus leur dit au verset 43 de ce chapitre 8 de Jean, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Verset 37, parce que ma parole ne pénètre pas en vous, ne passe pas en vous. En fait, ils étaient hermétiques à la parole de Jésus-Christ. Et il est clair que cette parole ne pouvant pénétrer en eux, ils ne pouvaient y répondre. Et leur réponse n'était qu'une réponse de façade, qu'une réponse de circonstance. Ils avaient cru, mais d'une foi qui non seulement n'exerce aucune influence sur la vie, mais finit par se retourner contre celui qui la professe. Drame que celui d'une telle façade. Drame que celui de la simulation. L'interrogation s'impose à nous. Avons-nous cru les paroles de Jésus? Avons-nous peut-être espéré les adapter à notre système de pensée? Même si ce système est honorable, la démarche l'est moins. Jésus n'est pas là pour que nous s'adapter à nous, mais il nous parle pour que nous nous adaptions à lui, pour que nous acceptions ce qu'il nous dit pour notre propre bien. Quels sont les effets de cette parole à laquelle nous disons croire ou avoir cru? Notre foi est-elle cette foi dynamique qui a animé le peuple de Dieu? Cette foi est-elle propulsive pour nous pousser à aller vers les autres, pour nous mettre en mouvement en qualité de disciples de Jésus-Christ? Parce que cette foi aura fait de nous de vrais disciples. Nous conduit-elle, comme le dit si bien Jésus, à la connaissance de la vérité, à la persévérance dans la recherche de cette vérité? Et l'assimilation d'une telle vérité produit-elle en nous la véritable liberté? À notre encontre, Jésus n'a pas d'autre but que celui-là. Il veut nous entraîner dans cette connaissance de lui-même et par lui-même faire de nous des êtres libres. Est-ce aussi notre désir? Sera-ce notre intention dans cette démarche qui nous pousse vers Jésus-Christ? Il y va de notre présent et de notre éternité. La semaine prochaine, nous essaierons de voir l'autre volet qui est le pendant de celui-ci, le volet qui, à la fois intellectuel, va opposer le mouvement du cœur. Que Dieu nous aide à y voir plus clair pour nous-mêmes. Amen.